Voilà, nous continuons sur le même thème, donc le thème de la conversion, en voyant d'autres aspects. Donc nous avons compris voilà, qu'il y avait une joie dans le fond à se convertir, puisqu'on rencontre le Seigneur. Après... On a vu que, voilà, Dieu attend vraiment à la porte de nous-mêmes, au plus profond de notre capacité à aimer, à faire la vérité. Si nous nous ouvrons, ben, nous découvrons cette joie des enfants de Dieu. Et puis, ben, ça nous oblige à sortir de nous-mêmes. On a vu que c'était un exode permanent, c'est pas un acquis. Il n'y a aucun acquis en Dieu. Pourquoi, dans le fond? Pourquoi il n'y a pas d'acquis en Dieu? Parce que Dieu est amour. L'amour, c'est jamais quelque chose d'acquis, c'est une dynamique. Pas se dire ça y est, j'ai donné assez d'amour, j'aime assez, et du reste c'est pas évident, hein, au bout de nombreuses années, voilà, l'amour est toujours à réactiver, et donc si on se donne à lui, ben, on s'aperçoit qu'auparavant on était enfermé en nous-mêmes, et que nous fonctionnons toujours dans des limites de nos façons à comprendre, à aimer. Et tout cela nous conduit à rester, à devenir, dans le fond, disponible à son œuvre créatrice. Voilà, c'est une expression d'un saint, je ne sais plus lequel. Pour être disponible à ce qu'il veut créer en nous, c'est toujours mieux que ce que nous avions programmé par nous-mêmes. Et cela nous conduit à découvrir un mot qui, souvent, est très très mal compris, c'est l'humilité. Comme disait un père qui est décédé depuis longtemps chez nous, qui avait le sens de l'humour, pour l'humilité, on n'a rien à craindre de la part des autres. Hein. C'est nous les meilleurs. Alors, qu'est-ce que l'humilité, hein? C'est ce que je voudrais aborder ce matin, parce que déjà ce que nous avons vu à travers la confiance, l'abandon, eh bien la confiance, l'abandon, on pourrait dire que c'est la dynamique de l'humilité. Celui qui n'est pas humble, il veut faire par lui-même, même bien faire, pour aller vers Dieu. Hein, je passe dans un cadre chrétien. Et vous voyez, ça fait partie de... Et nous sommes tous guettés par ça. Ça nous atteint de faire par nos... ce qui nous semble bon, ce que nous croyons être bien. Et tout cela, c'est hors du champ de l'humilité. Hein, la véritable humilité, ben, c'est ce que nous dit le Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on commence à réaliser maladroitement, parce qu'on est pécheur et pauvre, que sans lui on ne peut pas, ben on se dit peut-être qu'avec lui on pourrait. Et à ce moment-là, nous rentrons dans le véritable paysage de ce qu'est l'authentique humilité. Parce que souvent nous fonctionnons dans un paysage de fausse humilité, en se disant, et qui nous convient bien, hein, parce que ça nous permet de rester dans notre égoïsme, « Oh ben moi je suis trop nul, je suis trop petit, je suis... » Et puis merde, quoi. C'est des trucs qui conduisent à rien, ça. Sinon, à rester enfermé en soi-même, et, ben voilà, puisqu'on reste enfermé en soi-même, hein, on a la porte bien barricadée, en se disant qu'on est trop petit, ça c'est de la fausse humilité, ben le Seigneur ne peut pas nous prendre. Au contraire, la véritable humilité consiste à ouvrir la porte de notre cœur pour qu'il nous prenne, en allant avec ce que nous sommes, en lui disant, mais voilà, je n'y arrive pas, je suis trop égoïste, j'aime trop mon confort, j'ai pas trop envie, même pas envie du tout, mais viens faire quelque chose en moi. Donc on y va avec ce que nous sommes, et lui peut, hein, je peux tout en celui qui me fortifie, dit saint Paul. Donc méfions-nous de cette fausse humilité, qui en fait n'est qu'un égoïsme déguisé, et contre lequel le Seigneur ne peut rien, puisque nous fermons la porte. C'est barataclao. Voilà, alors qu'il nous demande d'ouvrir. Hein. Donc la véritable humilité consiste à s'ouvrir à lui, et si nous nous ouvrons à lui, il peut tout en nous. Et donc, nous, si nous faisons ce premier pas de nous ouvrir à lui, véritable, et c'est ça la conversion, hein, de notre aspect de la conversion, si on fait le véritable effort de nous ouvrir à lui, ce moment-là, il vient en nous et nous découvrons des espaces existentiels, des espaces de vie que nous n'avions jamais envisagés. Et alors à ce moment-là, nous comprenons comment il fonctionne et comment nous devons fonctionner pour que lui se donne à nous, que nous découvrions ce qu'il est et qu'il, on l'a vu encore ce matin à travers les textes, la deuxième aux Thessaloniciens, qu'il nous divinise, ce qui nous dépasse complètement. Et les autres années, je vous avais cité ce bon mot des premiers moines, des premiers siècles, je les aime tant, ils ont tellement le sens de l'humour, ils disent des choses profondes à travers des mots simples. Si tu vois un jeune moine monter au ciel par ses propres forces, retiens-le par les pieds. Voilà. Et souvent, nous faisons des efforts et qui sont inutiles, nous retombons sans cesse. Et le Seigneur n'est pas fou, il ne va pas nous laisser monter pour qu'on se casse la figure. Donc il nous ramène immédiatement vers le bas pour que nous trouvions, on avait dit hier qu'il était de très bas, hein. Et donc tout cela conduit à découvrir la beauté de Dieu. Alors, comment se convertir? Comment se convertir? En acceptant l'humilité. Alors je vous le dis, nous l'abordons toujours par notre imperfection, mais l'essentiel, c'est de toujours faire le premier pas. Si nous n'abordons pas, si nous ne faisons pas le premier pas, il ne se passe rien dans notre existence. On ne peut pas rencontrer Dieu à travers tout le fatras de notre existence. Il faut que nous lui accordions quelque chose, un temps. Par exemple, le pèlerinage est un temps pris sur votre vie, dans un temps où votre cœur est disponible, et où, justement, dans cet effort de venir, dans cet effort de marcher, dans cet effort de se rendre disponible, ça lui permet d'agir. Sinon, il ne le peut pas. Donc ça, déjà, la démarche de dégager un temps pour lui, c'est ça correspond à un mouvement de véritable humilité. Donc ce sera toujours imparfait, hein, comme on est pauvre. Oui, c'est toujours suivant l'adage, on dit j'irai à la piscine quand je saurai nager. Bon, j'irai vers Dieu quand j'aurai compris l'humilité. Non, on y va avec ce que nous sommes. Mais le moindre effort que nous faisons, lui, nous guette. Comme c'est un amoureux impatient, dès qu'il voit que nous faisons un pas pour aller vers lui, nous dégager de l'interférence du quotidien, à ce moment-là, il se manifeste. Et voilà, donc nous faisons un effort de conversion maladroit, et lui conduit ce mouvement de retournement à sa perfection, à sa totalité. Mais de notre part, il ne peut rien amorcer si nous ne faisons pas cet effort. Et je vous dis, c'est pas à nous de nous juger, savoir si notre retournement est bon, s'il n'est pas bon, etc. De toute façon, il sera toujours imparfait. Et tant mieux. Et c'est lui qui le conduit à la perfection. Donc, l'humilité, c'est pas de se dire qu'on est nul, et puis de refermer la porte après qu'on l'a crié bien fort. L'humilité, c'est de s'ouvrir pour que lui agisse en nous, et nous nous ouvrirons, nous nous retournerons faiblement, avec difficulté, mais c'est lui qui accomplira le reste. Et il ne faut pas, je vous disais hier, je vous citais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à la fois cette opposition en elle entre de très grands désirs et puis une incapacité. Le Seigneur a permis qu'elle soit ainsi pour nous laisser ce message à travers elle. Et je vous la cite. Il faut consentir à rester pauvre et sans force, et voilà le difficile. Car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Il faut le chercher bien loin, a dit le psalmiste. En fait, ce n'est pas le psalmiste, c'est dans le livre des Lamentations, qui reprend le livre des Proverbes. Il ne dit pas qu'il faut le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin, dans la bassesse et le néant. qui ne peut venir que vers celui qui manque. Si nous croyons aller vers lui à travers déjà ce que nous avons, c'est cet échafaudage qu'on veut éviter aux jeunes moines, eh bien, on est sûr qu'il va se casser la figure. Nous sommes sûrs que nous allons nous casser la figure. Mais si on est en bas, on ne peut pas tomber de bien haut. Et c'est là qu'il vient nous chercher, dans cet effort de disponibilité. Donc, ne pas le chercher parmi les grandes âmes, mais bien loin dans la bassesse et le néant. Ah, restons bien loin de ce qui brille. Aimons notre petitesse, aimons à ne rien sentir. Et oui, nous voulons toujours sentir pour nous appuyer sur ce que nous percevons. Eh bien, ce n'est pas un bon chemin. Alors, de temps en temps, il nous donne de percevoir des choses. Prenons-le et remercions-le, mais dans l'ensemble, nous ne percevons rien. Et ce fait de rien percevoir, vous l'avez saisi hier, ça lui permet de se manifester en nous. Nous restons disponibles et nous ne sommes pas appuyés sur... Vous voyez, on s'appuie sur ce que nous avons perçu. Eh bien non. Et la petite Thérèse parle à ce moment-là de richesses injustes. Et qui, pour finir, nous bloque. On se bloque sur un avoir. Alors, rangeons-nous parmi les pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Alors, vous pigez, quoi, dans le fond. Nous avons toujours des fausses grandeurs. Nous voudrons y arriver. Nous voulons y arriver. Nous voulons nous appuyer sur ce que nous avons perçu, sur ce que nous croyons avoir. Et c'est pas là-dessus. Parce que, à travers ça, nous nous appuyons sur nous, sur ce qu'on croit avoir acquis, alors qu'on ne peut s'appuyer que, vous le citez hier, sur lui. Alors, avoir de grands désirs, oui. Et c'est lui qui nous les donne, c'est l'Esprit Saint qui nous les donne, puisqu'il veut que nous soyons saints comme lui. La réalisation en essayant de s'exaucer, vous l'avez compris par la petite Thérèse, non, c'est une voie archi-fausse. Donc, la réalisation en s'offrant à lui et en acceptant de descendre pour que nous soyons totalement disponibles à lui, oui. Vous voyez, souvent, nous baissons les bras parce que nous allons chercher des choses qui nous paraissent bonnes, mais qui en définitive, aux yeux de Dieu, sont prétentieuses et inadéquates. Et je vous citais la parole d'Elisabeth, je la cite souvent et je la cite et je la recite, parce qu'elle me paraît fondamentale, disant sa prière avant de mourir et prenant la place du Christ, laisse-toi aimer. C'est ça l'humilité. Laisse-toi aimer, c'est comme ça que tu me plais. Et c'est en y étant fidèle que tu me rendras heureux. Quelles que soient les choses que tu aies faites, œuvre de péché et de misère, mais laisse-toi aimer. Et dans le fond, l'humilité, ça consiste à accepter de se laisser aimer par Dieu, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait. Pensez au bon larron, qui est un assassin, uniquement en acceptant de se laisser aimer par le Christ, il lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Se laisser aimer. Vous voyez, Dieu ne nous demande pas des choses compliquées, on est tous des shadows, on aime plus c'est compliqué, plus nous avons des échafaudages pour aller vers lui, qui sont complexes, plus on s'imagine, c'est presque de la magie, on s'imagine avoir trouvé la formule magique pour y aller. Eh bien non, ça ne marche pas. La seule chose qui compte, c'est de se laisser prendre par lui. Il ne demande pas, c'est archi simple. Et si nous n'y arrivons pas, c'est que nous sommes encore trop compliqués. Alors, par exemple, dans la prière, demandez-lui d'être simplifié et d'être appuyé en lui. Ce qui fait que l'humilité, ce n'est pas ce que nous avons souvent cette image, une sorte d'écrasement malsain. C'est malsain. Et cet écrasement malsain ne peut conduire à rien. C'est reconnaître que nous ne sommes pas capables et lui laisser la place disponible pour agir. À ce moment-là, il peut. Mais si nous n'acceptons pas cette démarche, nous ne pouvons rien faire. Donc, accepter de se laisser inspirer par lui, accepter de le regarder. Je vous disais que l'expérience du regard est très importante. À mon avis, dans la vie spirituelle, l'expérience du regard est fondamentale. Là aussi, on va chercher des états d'âme, des trucs complexes que l'on a, que l'on n'a pas. Si on croit les avoir, on s'imagine être arrivé à quelque chose. Si on ne les a pas, on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Mais l'expérience du regard, hein, c'est le regard. De la même façon que nous regardons avec les yeux, si je regarde avec les yeux, si je vous regarde, je ne me vois pas. Si je me regarde, je ne vous vois plus. Donc l'expérience du regard, c'est véritablement se détourner de soi pour regarder vers celui qui nous sauve. On comprend par cette analogie, évidemment, avec les yeux de l'âme, on voit que dalle. Hein, ça ne va pas sur une rétine. Mais on voit, on comprend, c'est cette attitude comme le regard avec les yeux de la chair. Si on regarde quelque chose, on ne regarde pas autre chose. Donc c'est se détourner de soi, ne pas s'analyser, ne pas se dire qu'on est bon ou se dire qu'on est mauvais, les deux attitudes sont inadéquates. C'est uniquement regarder vers celui qui nous sauve. Et tous les retournements sont toujours l'œuvre des forces des ténèbres. Les forces des ténèbres nous retournent vers nous pour nous dire « tu vois, t'es le meilleur, t'y es arrivé », ou nous dire « tu vois, t'es dégueulasse ». Dieu ne voudra pas de toi tellement t'es mauvais. Donc, ils agissent des deux côtés à la fois, et généralement de façon très, très rapprochée. Hein. En l'espace de quelques secondes, ils peuvent complètement nous retourner. Et comme Pierre, justement, t'es le Messie, t'es le Fils de Dieu, puis non, Seigneur, tu n'iras pas quelques minutes après. Donc, ça peut, le basculement peut se produire en une seconde. Donc, toujours regarder, essayer de regarder vers lui et avec lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui demander d'être toujours tourné vers lui. Cela nous permet de voir aussi que tout retour analytique sur nous-mêmes est quelque chose de mauvais. Reprenons le cas du bon larron. Il sait bien ce qu'il a fait mal. Constatons ce que nous faisons est mal. Cela nous rapproche aussi du sacrement de confession. Ou alors on commence à s'auto-analyser, à se dire « oui, mais je ne sais pas ce que je vais dire ». Vous savez, l'essentiel dans le sacrement de confession, c'est d'avoir le courage d'y aller. Et après, bon, c'est véritablement la profondeur des péchés, l'exactitude des péchés qu'il fait. Bon, c'est sûr, si je tue le voisin, je vois bien ce que j'ai fait. Hein. Mais dans l'ensemble, souvent, nous percevons le gémissement de l'esprit, il nous demande dans le fond de nous réconcilier avec Dieu, et après nous fait percevoir progressivement les choses. Mais ces retours analytiques, nous reconnaissons cette question, et après, parce que nous voulons de toujours à lui. Et je vois là dans le Brousset, c'est un couvent où il passe quand même beaucoup de monde, et il y a quand même beaucoup de gens qui demandent la confession. Et depuis que je suis prêtre, j'ai toujours été frappé de voir le visage des gens quand ils viennent à la confession et quand ils en sortent. Il y a eu, ça fait partie de la conversion aussi, c'est quand il y a ce retournement, mais je vois le visage des personnes s'illuminer. Et pour le prêtre, c'est une joie immense. parce que la personne arrive sous le pouvoir de qu'elle porte, il y a le péché, puis il y a l'impact psychologique aussi, hein, pour beaucoup. Et après, quand la personne est libérée, il y a aussi l'impact psychologique de la libération, où on voit la personne qui est toute heureuse. Parfois même, quand on accompagne spirituellement des personnes, on voit qu'on s'enfonce, la personne reste toujours enfermée en elle-même. Oui, mais moi je suis comme ci, oui, mais moi je suis comme ça, puis zut à la fin. Je dis maintenant, je ne voulais pas vous confesser. Et après, on voit la personne, oh, je me sens libéré, et bien, tout est faux. Parce que nous vivons dans de faux problèmes. Nous nous enfermons dans de faux problèmes. Et vous voyez, tout ça, c'est à l'inverse de l'unité, c'est l'amour du moi. Et l'amour du moi peut se manifester en disant, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. Ou alors inversement, vous savez, vous prenez un gant, c'est toujours un gant, qu'il soit à l'endroit ou qu'il soit à l'envers, c'est toujours un gant. Alors le côté, quand il est à l'endroit, c'est cela qui est en côté. Et quand le gant est à l'endroit, ben on est satisfait nous-mêmes. Quand on voit les coutures à l'envers, on se dit c'est dégueulasse, ça a été né, c'est sali par les doigts. Mais c'est toujours le moi. Donc, sortir vraiment de ce schéma et s'offrir pour que qui nous libère de nous-mêmes. Je vous disais hier, c'est nous, nos principales geôliers, c'est nous-mêmes. Et le démon ne peut pas nous enfermer si nous ne lui offrons pas cet espace d'enfermement et nous enfermions nous-mêmes. Donc, cette expérience du regard, j'en reviens au regard, c'est vraiment regarder hors de nous. Vous le disiez, si je suis obsédé par Lucette, que je regarde vers Mélanie. Forcément, hein, il y aura un autre centre d'intérêt. Mais le centre d'intérêt majeur, définitif, c'est Dieu. Autre parole de la petite Thérèse, elle est fabuleuse. Elle nous dit de supporter nos imperfections. Et nous, on a une mauvaise idée. Je pense que le scoutisme a apporté, par certains côtés, le scoutisme chrétien, certaines mauvaises idées. Vous voyez qu'on fait une BA, puis une autre, mais on ne s'en sort pas par soi-même. Alors, on aura toujours des incapacités, des imperfections. Et alors, elle nous dit, très exactement, il suffit de s'humilier, de supporter avec douceur ces imperfections. Les reconnaître est une chose, les supporter. Et elle rajoute, c'est cela la véritable sainteté. Alors, mine de rien, elle est sainte et elle est docteur de l'Église, avec des paroles dans ce style. Et cela doit nous donner un grand courage, un grand, grand courage, parce que, je vous dis, on a reçu une éducation chrétienne qui nous a empêchés de rentrer dans cette simplicité et de, voilà, tomber, d'accord, être nul, d'accord, mais l'humilité, c'est d'accepter d'être relevé par le Seigneur. Et c'est cela, la conversion. C'est cela qui va changer la profondeur de notre cœur. Et voilà.
Merci.